Chers frères et sœurs, on peut considérer que les versets que je vous ai lus sont d'une limpidité absolue, ce qui me revient à penser qu'il est peut-être inutile de prêcher sur ce passage biblique, tant il est évident. Néanmoins, j'imagine qu'il pourrait y avoir parmi vous quelques esprits facétieux qui ne manquerait pas de relever qu'il est quand même paradoxal, dans un temple restauré de frais, d'entendre un passage biblique qui invite, voire qui exhorte, à ne faire aucune représentation de ce qu'il y a ici, en l'air ou sous l'eau, de ne faire aucune représentation de Dieu également, et d'être tous autant que nous sommes sous les auspices d'un aigle napoléonien. Oui, la clé de voûte est ornée d'un aigle napoléonien, car ce temple bâti en 1870 était un peu finalement l'occasion de rendre hommage, si ce n'est gloire et culte, à Napoléon III. Il est donc nécessaire de reprendre notre passage biblique pour savoir si il faut entreprendre une nouvelle restauration du temple et décrocher l'aigle. Ce que j'aimerais que nous retenions plus spécifiquement de notre texte, c'est que si ce passage biblique a été inscrit dans le Décalogue, c'est pour nous aider à ne pas perdre la liberté qui vient d'être arraché à l'Égypte. C'est pour cela que je vous ai relu le préambule et la première parole. Les 10 paroles sont destinées à faire en sorte que le peuple ne retourne pas en Égypte, symboliquement la maison de servitude. Et cette parole a cette fonction-là. J'irai plus loin en disant que cette parole à une fonction théologique, nous faire comprendre que l'Éternel n'est pas le Dieu que nous voudrions. Et au fond, ce matin, en venant ici pour le culte, nous voulons rendre un culte au Dieu dont nous ne voulons pas. C'est là tout le paradoxe de la foi chrétienne, vouer un culte à un Dieu dont nous ne voulons pas. Le Dieu qui se révèle dans les textes bibliques n'est pas le Dieu de nos rêves, loin de là. C'est la raison pour laquelle ce passage du Décalogue nous parle de la non-représentation de Dieu. Parce que bien évidemment, si nous nous mettions à le représenter, nous en ferions un Dieu selon nos rêves et non pas tel qu'il vient à nous. Si des textes bibliques ont intégré cet interdit de l'image, c'est justement parce que nous avons une forte propension à nous faire des images de Dieu et à faire des images de Dieu qui nous conviennent plus qu'elles ne sont fidèles à Dieu lui-même. Nous avons une forte propension à nous construire un Dieu à notre mesure, un Dieu qui nous ressemble. Et cela ne date pas d'hier. C'est la raison pour laquelle des rédacteurs ont écrit ce passage biblique. L'archéologie nous montre que l'utilisation d'images divines était une chose courante à l'époque biblique. Si nous nous en tenons au texte biblique, vous avez peut-être entendu parler du veau d'or après la sortie d'Égypte, un veau destiné à rendre Dieu visible au peuple qui n'en pouvait plus d'être dans le désert. Exode 32. Ce sont aussi deux veaux d'or que le roi Jéroboam est réputé avoir installés à Dan et à Bethel après la mort de Salomon. Premier livre des rois, chapitre 12. L'intérieur du temple de Jérusalem, le lieu le plus saint de la foi israélite, toujours selon le texte biblique, contenait à tout le moins le poteau d'Achéra, dont certains estiment que Achéra pourrait être l'épouse de Yahvé, l'Éternel. C'est cela que Josias fera détruire selon le deuxième livre des Rois, au chapitre 23. Mais, comme le rappelait le professeur Thomas Römer dans un séminaire cette semaine, l'archéologie a révélé qu'il existait bien d'autres représentations. On a retrouvé, par exemple, un prisme qui indique la déportation des dieux de Jérusalem vers Assur en 722, quand l'Assyrie l'emporte sur Israël. Des sceaux, un peu comme des signatures, ont été retrouvés avec des représentations de dieux sous forme lunaire, ainsi que des pièces de monnaie. Ils n'avaient pas Marianne, ils avaient Yahvé. Et nous pourrions ajouter qu'il y a non seulement les images picturales, mais il y a aussi les images mentales. Et les textes bibliques eux-mêmes développent des images de Dieu. On parle de la main de Dieu, ce qui est une image anthropomorphique. On projette sur Dieu l'idée qu'on s'en fait à partir de ce qu'on voit de nous-mêmes. Alors évidemment, la main de Dieu, c'est comme notre main, mais en plus fort. Et lorsque le livre des Nombres rapporte que Dieu fait sortir le peuple d'Égypte et qu'il est pour lui comme la puissance du rhinocéros, c'est une image zoomorphique. On utilise un animal pour se représenter Dieu. Alors, ayons bien conscience que les images peuvent être aussi des images mentales. Et au fond, lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous pouvons convenir du fait que plein d'images traversent notre esprit lorsque nous prions, lorsque nous parlons de Dieu. Dieu n'est pas ou n'est plus représenté par un vieillard avec une barbe. Mais nos images ne sont pas forcément plus réjouissantes ou plus glorieuses. Si nous faisons cela, c'est pour faire ressembler Dieu à ce que nous connaissons. Et c'est bien compréhensible. C'est pour le faire ressembler à ce qui nous est familier. Mais quand nous faisons cela, Dieu nous ressemble, mais il ne ressemble plus à Dieu. Et c'est là qu'est tout le problème. Or, l'Éternel n'est pas le Dieu que nous voudrions, il n'est pas le Dieu de nos rêves ou de nos fantasmes. Nous le voyons bien avec ce tour d'horizon des images de Dieu à l'époque de la Bible hébraïque. Nous le constatons également en réfléchissant à la manière dont nous-mêmes nous parlons de Dieu, en réfléchissant à la manière dont nous pensons Dieu, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de Dieu sans recourir à des images plus ou moins nettes, plus ou moins conscientes. Et il n'y a pas de reproche à se faire. Comment réfléchir autrement qu'à partir de ce que nous connaissons? Certes, nous n'avons pas d'image peinte ou taillée de Dieu dans notre temple. Encore une chance. Mais notre esprit est rempli d'images de Dieu. Quand nous parlons de Dieu, quand nous prions Dieu, des images de Dieu se dessinent, plus ou moins conscientes, disais-je. Et par image, il faut aller au-delà de l'aspect artistique, car tout discours sur Dieu développe des images qui ne sont peut-être pas anthropomorphiques, qui ne sont peut-être pas zoomorphiques, mais qui peuvent se rapporter à bien d'autres domaines de la vie. Dieu peut être imaginé comme un médecin qui guérit. Et bien souvent, nos prières font de Dieu un médecin, pour qu'il guérisse. Dieu peut être envisagé comme un guerrier qui conduit nos combats, ou comme un diplomate qui nous apportera la paix selon nos vœux. Il peut être aussi considéré comme un juge qui punit ou qui récompense, etc., etc. Quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons à Dieu, nous nous créons de nombreuses images de Dieu, et cela sans nous en rendre forcément compte. Et cela ne constitue pas un problème, pour autant que nous ne soyons pas dupes de ces images. Et voilà ce que veut nous dire ce passage du livre de l'Exode. L'interdit ne porte pas sur les images, mais sur l'utilisation des images. Si le rédacteur avait voulu interdire tout bonnement les images, il aurait dit « tu ne feras pas d'images ». Mais ce qu'il veut interdire, c'est un mauvais usage des images. C'est la raison pour laquelle il précise « tu ne les serviras pas, tu ne te prosterneras pas devant elles ». L'important, pour le dire avec des mots d'aujourd'hui, c'est de ne pas être dupe de nos images. C'est de ne pas confondre les images avec ce qu'elles désignent. Le problème, ce serait de produire toutes ces images et de nous incliner devant elles et de les servir religieusement. Produire des images de Dieu ne pose pas de problème si ces images sont à notre service et non pas l'inverse. La menace qui pèse sur toute personne qui fait des images de Dieu, c'est de se mettre au service de ces images. Quand ces images deviennent des images que l'on se met à servir, alors il y a au sens strict du terme une servitude qui est contraire à tout le mouvement du texte qui, comme je vous le rappelais, consiste à nous faire sortir d'Égypte, la maison de servitude. Si vous rentrez chez vous tout à l'heure et que vous reprenez ce passage biblique dans la traduction que je vous ai lue, Louis II, vous verrez qu'il est écrit qu'il ne faut pas rendre un culte à ces images. En hébreu, c'est « tu ne serviras pas ces images », c'est le terme de la servitude et de l'esclavage. La maison de servitude, c'est le même terme que « tu ne serviras pas ces images ». Il n'est pas tout à fait question de culte, mais c'est bien l'esprit. Toutes ces images que nous produisons ne sont pas un problème tant qu'elles restent un moyen pour découvrir Dieu. Ce que nous pouvons dire de Dieu, ce que nous pouvons espérer de Dieu. Et nous le faisons par approximation successive. Comme un scientifique qui essaie de découvrir la vérité d'un aspect de la vie, le croyant émet des hypothèses sur Dieu et il les vérifie. Quand il constate que son hypothèse n'est pas vraie, il la corrige ou il l'abandonne. Et il passe à une autre hypothèse pour s'approcher un peu plus de la vérité de Dieu. Cet usage scientifique des images, y compris des images mentales, n'est pas récusé par notre texte biblique. Ce que notre texte biblique récuse, c'est de se faire une image de Dieu et d'y tenir bon coûte que coûte, de ne jamais la remettre en question, de ne jamais la réinterroger. Ce que ce texte biblique récuse, c'est d'avoir une image de Dieu à ton âge, jeune homme, et de la garder coûte que coûte jusqu'à l'âge de ta grand-mère. Eh bien ça, c'est péché. Ta grand-mère avait certainement des images de Dieu très semblables à celles que tu as actuellement. Et je suis prêt à parier beaucoup de choses que ça a bien changé depuis. N'est-ce pas ?
Oui.
Ne pensez pas que ce que je vous dis soit une vue de mon esprit. C'est tout simplement le constat que l'on peut faire en lisant sérieusement les textes bibliques, qui n'ont pas fait autre chose au fil des siècles. Ils ont amélioré, petit à petit, par approximation successive, la compréhension de Dieu que nous pouvons avoir, en corrigeant ce que leurs prédécesseurs avaient envisagé et qui ne s'avérait pas tout à fait exact à l'usage. Et nous le constatons notamment sur cette question de la représentation de Dieu. La représentation de Dieu était monnaie courante dans le Proche-Orient ancien, et même dans le bassin méditerranéen. Et puis ensuite, cela a été critiqué par Xénophane, par exemple, au VIe siècle, un grec, dans ses fragments. Justement, il récusait les anthropomorphismes qui faisaient de Dieu un Dieu à notre taille au lieu de laisser Dieu être Dieu. Et il en va de même pour les Hébreux. La critique, au sein même de la Bible, est devenue nécessaire quand la recherche de la vérité s'est arrêtée et qu'on s'est contenté des résultats obtenus à un moment donné. Alors, des théologiens se sont levés et ont dit qu'on ne pouvait pas en rester là, parce que le Dieu de nos pères ne pouvait plus être dit dans les termes d'autrefois. Parce que les images qu'on s'était faites, aussi utiles avaient-elles pu être autrefois, ne correspondaient plus à toutes les découvertes de la vie qui a été faite ensuite. La critique est devenue nécessaire quand la recherche de la vérité s'est arrêtée et il a fallu réformer les résultats qui avaient été obtenus jusque-là. Et l'histoire de la religion n'est pas autre chose que l'histoire d'une réforme permanente de la théologie. Et soyez-en certains, un protestant de 1870 viendrait aujourd'hui dans ce temple, il ne reconnaîtrait pas son protestantisme. Et nous n'aurions pas tort pour autant de dire ce que nous disons, de penser ce que nous pensons et de croire ce que nous croyons. Mais entre-temps, il n'y a pas que l'eau qui a coulé sous les moulins et sous les ponts. L'esprit scientifique de l'être humain nous a permis d'approfondir notre connaissance du réel et c'est heureux que nous puissions intégrer ces résultats dans notre discours sur la vie, dans notre discours sur Dieu. Quand l'image a été prise pour la vérité, quand une définition a été prise pour la vérité, alors l'image est devenue une idole. Et c'est d'ailleurs ce terme qui est employé dans la traduction grecque de la Septante au sujet de ce passage biblique. Eidolon. Tu n'auras pas d'eidolon, tu n'auras pas d'idole. Tu ne considéreras jamais que ta confession de foi aujourd'hui devrait être nécessairement la même demain. Peut-être le sera-t-elle, mais à condition de l'avoir repensée à nouveau frais. Il ne faut pas effectivement envisager le changement pour le changement à tout prix. Mais en revanche, il ne faut jamais inscrire dans le marbre, pas plus d'une table de communion que d'autre chose, l'expression de notre foi. Quand une image est considérée comme une représentation du réel, une représentation exacte de la vérité, que cette image soit sculptée qu'elle soit peinte, ou que ce soit une image mentale, une idée, attention à ce qu'elle ne devienne pas une idole. Attention à ce qu'on ne se mette pas à la vénérer et à tout sacrifier pour elle. On en deviendrait l'esclave. On devient esclave de ce qui n'est qu'une expression de la vérité, de ce qui n'est qu'une approximation de la vérité. Et si c'est le cas, tout n'est pas perdu pour autant. Le texte continue. Et le texte continue en disant que lorsque nous crispons sur une image de la vérité, c'est alors que Dieu intervient comme un pédagogue. Attention à ne pas faire de Dieu un pédagogue pour autant. Ce n'est qu'une image. Ce que je veux dire, c'est que le texte continue en nous disant que lorsque nous devenons intégristes, et peut-être même fanatiques, Dieu se fait pédagogue pour nous travailler en profondeur, de façon à ce que nous ne devenions pas l'esclave d'une image fixe ou d'une définition définitive, d'une théorie inscrite dans le marbre de la connaissance, ce que les théologiens appellent un dogme. Et les théologiens protestants distinguent bien la doctrine du dogme. La doctrine, c'est le discours sur Dieu, un discours qui utilise des images, comme je viens de le faire en disant que Dieu peut être pédagogue, mais des images que les théologiens s'efforcent de renouveler pour être au plus proche de la vérité. Et pour cela, ils utilisent les découvertes qui se font jour après jour. Quand ils arrêtent leurs recherches et qu'ils prennent une doctrine pour la vérité ultime, alors cela devient un dogme. Et c'est problématique. Et dans ce cas, ce que le texte veut nous faire comprendre, c'est que Dieu intervient pour remédier à cela si nous restons bloqués devant une image fixe. Alors que la vie progresse, et alors que nous nous éloignons de plus en plus de la vérité en question. C'est alors que Dieu intervient. Et avant de voir comment Dieu intervient, il me faut moi-même intervenir sur la traduction qui n'est pas tout à fait celle que nous avons entendue grâce à Louis II. Dieu ne vient pas pour punir. C'est le verbe « pacade » qui est employé. Dieu vient pour visiter. Si vous avez une Bible Darby, vous verrez que c'est bien traduit. Si vous avez une King James, vous verrez que c'est bien traduit aussi. Mais notre Louis II, enfermé dans ses représentations de Dieu, enfermé dans son Dieu juge, a projeté sur la traduction une image de Dieu qui ne lui appartenait pas. Dieu ne vient pas punir jusqu'à la troisième et même la quatrième génération, il vient visiter ceux qui le haïssent, ceux qui refusent d'accepter que Dieu ne soit pas le Dieu qu'il veuille, mais que Dieu soit Dieu, nom de qui vous savez. Visiter, c'est bien autre chose que punir. Dieu vient à la rencontre de ceux qui le haïssent, c'est-à-dire de ceux qui sont hostiles à la vérité que Dieu désigne, contrairement aux autres qui aiment Dieu pour ce qu'il est. Vraiment, autant que possible, et qui garde sa parole. Dieu vient à la rencontre de ceux qui sont bloqués dans leur recherche, dans la recherche de la vérité, ceux qui s'en tiennent à un état de la recherche et qui, du coup, s'éloignent de plus en plus de la vérité parce qu'en ne bougeant pas, alors que la vérité, elle, évolue, ils sont de plus en plus éloignés de la vérité. Dieu vient à notre rencontre lorsque nous nous barricadons dans des certitudes et que nous sacrifions notre esprit critique, notre intelligence et toute notre vie à ces certitudes. Ces certitudes sont des idoles qui nous maintiennent à distance de la vie. Parce que ces certitudes sont infichues de nous expliquer quoi que ce soit sur la vie. Elles nous mentent. C'est une falsification du réel. Et c'est tout le problème des intégristes, qui veulent absolument que leur certitude soit une vérité ultime, auquel tout le monde devrait se soumettre. C'est tout le problème des intégristes qui veulent que leur vérité se transmette d'une manière identique, de génération en génération. Il faudrait garder intègre le dépôt de la foi. Oui, c'est vrai, il faut que la foi reste intègre. Il faut que Dieu reste intègre. Mais pour cela, il ne faut pas transmettre en l'état ce que nous avons reçu. C'est le problème des intégristes qui veillent jalousement sur la forme de leur discours, de leur rite et de leurs convictions. Au fond, l'intégriste considère que tout doit être décalqué et copié à l'identique. À cela, Victor Hugo disait « N'imitez rien, n'imitez personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. » Dieu n'est pas le Dieu que nous voudrions. Dieu n'est pas ce qui nous caresse dans le sens du poil. Dieu, c'est ce qui s'efforce de nous empêcher que nous devenions un singe. Dieu n'est pas là pour nous faire plaisir. Et d'ailleurs, regardez les personnages bibliques. Ils sont en permanence contrariés dans leurs élans. Ils sont toujours à se récuser en disant « pas moi, pas moi ». Le pire, c'est peut-être l'apôtre Paul, qui va même parler d'une écharde dans sa chair. Dieu, c'est ce qui nous aide à ne pas devenir esclaves des idoles, des images, des discours qu'on répète en toutes circonstances sans se demander s'ils sont encore pertinents. La mauvaise traduction du verset 5 est un bon exemple de cela. On aimerait que Dieu soit un justicier, on aimerait que Dieu punisse les méchants. On aimerait aussi que les enfants des mauvaises gens soient punis, qui est une sorte de vendetta en permanence. Mais Dieu n'est pas un Dieu justicier ou vengeur. Dieu n'est pas un tueur à gages. Le texte biblique nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. À ne pas confondre avec un Dieu envieux des autres. Que Dieu soit jaloux signifie qu'il veille jalousement sur les êtres humains, qu'il n'a pas du tout envie qu'un seul se perde. C'est ça la jalousie de Dieu. Comme une mère qui veille jalousement sur ses enfants, pour que rien de fâcheux ne leur arrive. Alors Dieu va à la rencontre de ceux qui ont de la peine à suivre les évolutions du monde, pour les aider à changer leur regard sur la vie et pour développer une foi vivante qui leur permette d'être toujours au contact de la vérité de la vie et pas des vérités d'autrefois. Bien sûr que le monde change et que c'est douloureux. Bien sûr que bien souvent, on ne reconnaît pas le monde dans lequel nous avons grandi. Mais des fois, le monde évolue et c'est une bonne chose. Bien souvent, le monde évolue dans le sens de ce que Dieu désigne, dans le sens de l'espérance de Dieu. Mais il est vrai aussi que parfois, le monde évolue à l'inverse de ce que Dieu désigne. Toute évolution n'est pas bonne au prétexte que ce serait un changement. En revanche, être par définition rétif au changement n'est pas du tout une perspective biblique. Dieu va à la rencontre de ceux qui ont de la peine quand un changement intervient auquel ils n'étaient pas habitués, auquel ils n'étaient pas préparés. Et peut-être nos assemblées dominicales, peut-être nos activités d'église sont-elles là pour nous préparer à mieux accueillir les changements qui vont dans le sens de Dieu. Quant à ceux dont la foi leur permet d'être libres et d'accueillir avec bonheur les changements qui vont dans le sens de Dieu, l'Éternel, dit ce texte, leur procure de la miséricorde à l'infini pour plus de 1000 générations, pour les encourager dans leur voie, pour donner encore plus d'intensité à leur existence, encore plus d'intensité à leur capacité d'aimer. Frères et sœurs, tout cela nous aide à mieux comprendre le premier verset que je vous ai lu, que je vous relis d'ailleurs, parce qu'il n'est pas très bien traduit lui non plus. Louis II traduit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». En hébreu, ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit « Il n'y a pas, il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu devant mes faces ». Ce que dit ce texte, c'est qu'il n'y a pas 25 000 dieux et que nous devrions choisir l'Éternel parmi les 25 000 dieux. Ce que dit ce texte, c'est l'unicité de Dieu. Il dit qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas des dieux plus ou moins sympas. Il n'y a pas des dieux plus ou moins agréables. Il n'y a pas des dieux qui nous conviendraient plus ou moins bien et que nous pourrions choisir à dessein en fonction de notre humeur. Que Dieu soit un, il n'y aura pas d'autre Dieu pour toi. Que Dieu soit un, tel que cela est affirmé ici et dans quelques autres textes, fait aussi partie de ces découvertes qui ont été faites au fur et à mesure. La pensée biblique n'a pas toujours été monothéiste. Si nous regardons soigneusement les textes bibliques, nous constatons que le monothéisme dans la Bible vient assez tardivement. Il y avait d'abord le polythéisme, avec la possibilité d'avoir plusieurs divinités pour soi. Je parle des personnages bibliques, pas des populations étrangères. Et puis après, il y a eu l'énothéisme, le fait qu'il fallait avoir un seul Dieu, mais que nous étions d'accord pour dire que les autres pouvaient en avoir d'autres. Le monothéisme strict vient assez tardivement pour dire que nous sommes tous frères et sœurs sur terre, parce que précisément, nous sommes toutes et tous face au même réel. Mais voyez-vous, c'est une progression, une révélation progressive qui a eu lieu à ce sujet. Il y a un Dieu, l'Éternel, et il n'y a pas d'alternative. Alors, ne pas se faire d'image de Dieu, c'est laisser à l'Éternel la possibilité de transcender nos représentations, nos idées toutes faites. Ne pas se faire d'image de l'Éternel, c'est éviter de devenir fanatique d'un Dieu à notre mesure, qui est sans commune mesure avec ce qu'est véritablement la vie. C'est éviter de s'enfermer dans un dogmatisme qui peut être rassurant, confortable comme l'étaient les marmites pleines d'Égypte, mais qui demeure une maison de servitude. Ne pas se faire d'image de Dieu et les servir, leur rendre un culte, se prosterner devant elles, tout leur sacrifier, c'est laisser à l'Éternel la liberté de nous surprendre et de rendre notre vie infiniment supérieure à nos rêves. Amen.